Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. Alors ce soir, on reçoit Nathalie et Clotilde qui font toutes les deux partie du réseau Éducation Sans Frontières, RESF. Et avant de se pencher sur ce qui s'est passé cet été et comment se présente la rentrée, est-ce qu'on peut dire deux mots pour rappeler ce qu'est le réseau Éducation Sans Frontières, quand il naît, sur quelle base il naît, qui il rassemble et quelles sont précisément vos activités?
Eh ben, le réseau Éducation Sans Frontières, il est né en juin 2004 à l'initiative d'enseignants qui ont rencontré concrètement le problème d'élèves dans leur classe qui étaient en France, arrivés hors regroupement familial, qui donc, arrivés à 18 ans, se retrouvaient en situation irrégulière. Faut rappeler que tant qu'on est mineur, on n'a pas besoin de papier pour rester sur le territoire. Et donc, arrivés à 18 ans, ben, ils se sont retrouvés en situation irrégulière et ils en ont parlé à leurs profs, qui ont essayé de se débrouiller, puis il y en a eu de plus en plus. Et les uns et les autres ont fait ça avec des bouts de ficelle en allant voir la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le GISTI. Et puis au mois de juin 2004, il y a un groupe d'enseignants qui se sont dit « Bon, on va arrêter de bricoler dans notre coin, on va tous se mettre ensemble et on va faire un réseau qui rassemble toutes les bonnes volontés, qui participent à la défense de ces enfants qui se retrouvent en situation irrégulière. » En France, alors que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils y sont. Au début, ça a regroupé quelques enseignants, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, le GISTI. Qui c'est que j'oublie là?
Je crois qu'il y avait des syndicats enseignants en
partie. Les syndicats enseignants. Dans Sud Éducation, la CGT, etc. Et puis ça s'est élargi. Il y a maintenant 150 associations qui font partie de ce réseau. Donc c'est bien un réseau, hein. Alors, il y a effectivement les parents d'élèves qui ont un poids essentiel, la FCPE notamment. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde, certains avec ses capacités de mobilisation, comme les parents d'élèves, certains avec leurs spécificités juridiques, comme le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, d'autres avec, comme les enseignants, avec leur capacité de faire écho à ce genre de lutte dans le milieu enseignant par le biais des syndicats. Puis bon, maintenant, il y a plein de monde, mais ça reste un réseau. Voilà.
Alors, ça, il faut ajouter de simples citoyens qui sont venus rejoindre le réseau.
Alors, c'est vrai que la spécificité du réseau Éducation Sans Frontières, c'est de faire la défense individuelle. Non pas que il y ait des désaccords avec les collectifs de sans-papiers qui demandent, qui refusent justement le cas par cas. C'est que là, on a construit ça autrement. Parce que les mobilisations, elles partent des établissements scolaires, elles mouillent, si je puis dire, les professeurs, les copains de classe des élèves, les parents des copains de classe des élèves, tous les autres parents, et en fait, c'est une communauté scolaire et le quartier qui se mobilise pour ces enfants-là. Ce qui fait que c'est pas un vœu pieux, on défend tel individu qu'on connaît, parce que c'est le copain à ma fille, le copain à mon fils, parce que c'est un de mes élèves, parce que c'est le voisin du dessus, du dessous, parce que c'est la gamine ou le gamin qui vient acheter le pain tous les jours à la boulangerie. Et du coup, c'est vrai que les gens qui se mobilisent à RESF, ils ont ça de particulier, c'est qu'ils sont pas tous forcément des mêmes options politiques. Il y a même parmi les soutiens des RESF des gens qui sont pour la reconduite à la frontière, mais qui disent, des étrangers, mais qui disent « Oui, mais elle, je la connais, ça fait 4 ans, elle est gentille, ou mais lui, non, non, mais cette famille-là, c'est pas pareil, c'est mes voisins du dessus, mes voisins du dessous. » Et cela, et ce qui fait que c'est aussi la force, c'est qu'on arrive à faire signer des pétitions et à faire se mobiliser des gens qui, d'habitude, ne militent pas, ne signent pas de pétitions et certainement pas pour ce genre de choses, type tous les petits commerçants de la rue. C'est rare de voir des bouchers, des buralistes signer des pétitions pour éviter la reconduite à la frontière. Et ça marche comme ça. Donc ça fait des choses un peu curieuses, c'est très œcuménique, on va dire. Hein. Faut pas être sectaire, quoi. Mais l'objectif, c'est effectivement que les gamins y restent, et qu'on les défende, et ça marche.
Alors, il y a eu un certain nombre de résultats. Enfin, le réseau s'est signalé il y a quelques temps par des mobilisations assez importantes, locales, qui ont permis, je pense à ce dont on parlait tout à l'heure, à Sens, ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, des cas comme ça sur lesquels il y a eu vraiment un achoppement et où plusieurs fois le gouvernement a dû céder devant des mobilisations un peu inattendues quelque part.
Oui, oui, il y a le cas du lycéen, mais ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, c'était un peu vieux. En fait, c'est pas si vieux, c'est qu'on voit tellement de milliers de gens qui s'adressent à RESF que ça nous semble lointain, qui avait été régularisé, un lycéen camerounais du 93, grâce à l'appui de tous les mômes du Bahut, quoi. Enfin, il avait refusé de monter dans l'avion. Quand on refuse d'embarquer, on passe en jugement au tribunal administratif, et là, il y avait 500-600 mômes de son bahut qui étaient venus avec les profs et tout en soutien. Bon, il a été régularisé. C'est lui qui était d'ailleurs papa. Il avait 19 ans. Mais ça, c'est réglé. Il y a un autre cas, celui dont tu parlais, à Sens, la famille Makombo, une maman congolaise, seule avec ses enfants en France, qui avait fui effectivement des persécutions d'ordre politique. Et lorsqu'elle avait été convoquée au commissariat, les deux aînés, Jonathan et Rachel, qui avaient 14 et 16 ans, avaient tout de suite compris ce qui risquait d'arriver et ils s'étaient enfuis. Ils étaient en fugue. Voilà. Et en fait, ils ont fugué comme ça. Ils ne sont pas retournés à l'école, pas retournés au lycée. Et on n'a pas pu évacuer la maman, la mettre dans un charter comme ça, puisqu'il y avait des enfants mineurs qu'on n'arrivait pas à récupérer. Et ça donnait l'occasion à pas mal de gens de les héberger, de les protéger. Et il y a eu beaucoup d'intimidation de la part de la police pour effectivement décourager tout le monde de les héberger et de les cacher. Mais ils ont fini.
Oui. Ça prenait quelle forme, c'est les comportements de la police?
Ben, notamment des perquisitions au domicile des gens qui étaient susceptibles de les héberger, des menaces, des rappels à l'ordre, l'article du code machin, attention, vous n'avez pas le droit de, voilà. Et en fait, bon, ils ont refait surface, mais Madame Makombo n'a toujours pas de titre de séjour. Aux dernières nouvelles, Arnaud Klarsfeld a daigné dire que, ah, tout de même, elle méritait un titre de séjour. Elle et ses 4 ou 5 enfants. Bon, il y a les deux plus grands et il doit y en avoir deux autres plus petits, je crois, deux ou trois autres plus petits.
Alors, on reviendra sur Arnaud Klarsfeld tout à l'heure, parce que je pense que vous avez deux, trois habits à lui mettre sur le dos. Juste, un certain nombre de militants de RSF nous disaient que, en fait, ils ont été excessivement surpris à partir du moment où il y a quelques élèves qui se sont signalés, qu'ils ont organisé des mobilisations autour de certains élèves, de voir émerger alors d'autres élèves et le nombre d'élèves qu'il y avait dans certains établissements qui étaient qui n'avaient pas de titre de séjour, qui disaient bah oui moi aussi jusque là je le cachais et tout, et qu'il y a eu un peu débordement.
Oui oui, on a été surpris parce que surtout dans les lycées professionnels où les élèves sont plus âgés, hein, ils sont souvent majeurs. Et il y a des lycées, il y a ça un an et demi, il y a un gamin qui est d'un lycée automobile de Paris qui s'est fait prendre sur le trottoir, qui s'est retrouvé en centre de rétention. Bon. Et direct, on l'a sorti du centre de rétention, il a eu des papiers. Et dans sa classe, la semaine qui suit, il y en a eu 4 qui sont venus nous voir. Nous aussi, on n'a pas de papiers. Donc on a refait des dossiers, on s'est battu pour eux, et en fait il y en a 30 dans le même lycée qui sont signalés en l'espace de 3 mois. C'est-à-dire qu'ils attendent de voir si ça marche, si ça marche pas, si la mobilisation elle rapporte ou pas, parce qu'ils pètent de trouille. Hein. C'est des enfants qui, en général, bon, ils ont 18-19 ans, c'est l'âge où on rigole, où on sort, où on s'amuse. Alors eux, ils mettent toujours les tickets de métro quand ils prennent le métro, il n'y a pas de problème. Hein. Ils font vachement bien. Ils sortent pas, ils vont pas en boîte. Quand ils sont à la terrasse d'un café, il y avait une jeune fille qui me disait l'autre jour qu'elle était à la terrasse d'un café. Bon, c'était un peu jour de fête avec deux copains du lycée. Et à la table d'à côté, ils ont commencé à faire les andouilles. Et il y a un verre de bière qui est tombé par terre. Et quand le verre de bière est tombé par terre, elle a tout de suite eu peur. Elle s'est dit, oh, il va peut-être y avoir une bagarre, ça va peut-être dégénérer. Elle est partie tout de suite. Elle dit, on ne sait jamais des fois que la police arrive. Et en fait, on leur gâche leur jeunesse, quoi. Ils sortent pas, ils s'amusent pas, ils osent pas dire souvent à leurs copains de classe dans quelle situation ils sont. Ils ont peur et ils ont honte. Ils ont honte. C'est-à-dire qu'ils osent pas le dire aux autres, on est sans papier. Et quand ils arrivent enfin à le dire, en général, ça leur fait, ben c'est vrai, beaucoup de bien. Et quand ils voient que les copains de la classe sont solidaires, on a toujours droit à un petit moment de larmes, un petit moment d'émotion. Bon, ça leur réchauffe le cœur et puis ils sont repartis pour pouvoir se battre.
Et cet effet-là de voir plein de jeunes sans papier qui tout à coup se déclarent quand ils voient qu'il y a quelques luttes qui payent, ou du moins qu'il y a des personnes qui se mobilisent autour de ça, on l'a retrouvé à une échelle beaucoup plus vaste en juin, à la fin juin, au moment où Sarkozy a fait l'annonce, a dû reculer un peu et a dû faire une annonce sur des régularisations, sur certaines conditions, avec énormément de sans-papiers qui sont allés dans les préfectures.
Oui, alors là, c'est un petit peu différent, parce que la circulaire Sarkozy du 13 juin, effectivement, annonçait une régularisation des familles d'enfants scolarisés avec certains critères. Et les jeunes majeurs dont parlait Clotilde à l'instant étaient exclus de cette circulaire. Parmi les critères, il y a un critère qui est tout à fait discutable, qui c'est celui des liens avec la France, parce que c'est quelque chose d'extrêmement subjectif qu'on ne peut pas définir. Est-ce que les liens avec la France, c'est de la famille qui est là? Est-ce que c'est le temps qui, depuis l'installation de la famille en France, est-ce bon? Là, on n'a pas. Ce qui a d'ailleurs montré par la suite, que c'est cette circulaire totalement avisée d'annonces électoralistes était vraiment d'une hypocrisie remarquable, puisque, mais on en parlera tout à l'heure, les critères, quand on a commencé à recevoir des reçus pour les familles qui rentraient dans les critères, il y avait dans les 6 critères, il y avait également pas suffisamment de lien avec la France. Pour certains, la famille, le père avait un parent français ou avait de la famille naturalisée. Il n'y a pas plus de lien avec la France que ça, c'est pas possible.
Peut-être on peut revenir là sur ce que tu évoquais, sur cette question des liens avec la France ou des liens avec le pays d'origine. C'était un critère très très étonnant de dire voilà, bon, alors s'ils sont bien intégrés et qu'ils n'ont plus de lien avec leur pays d'origine, c'était ça un peu, si je me souviens bien.
Alors, il y avait deux choses. Il y avait les liens, la force des liens avec la France et le manque de lien avec le pays d'origine. Et ça, c'est absolument scandaleux. Comment peut-on demander à un enfant ou à une famille, de se couper complètement de ses racines et de sa culture? Et comment peut-on demander à une famille comment peut-on proposer une régularisation à des familles uniquement lorsqu'elles n'ont plus de famille ailleurs?
Alors, juste, peut-être, tant qu'on est sur la circulaire du 13 juin...
Oui, la circulaire Sarkozy.
La circulaire Sarkozy. On peut peut-être un peu expliciter...
Cette circulaire proposait de régulariser les familles d'enfants scolarisés hors les jeunes majeurs, avec ces critères, il y avait le manque de lien avec la famille, avec le pays d'origine, l'intégration, je dois dire que, à force de le dire, je finis par oublier. Les liens avec la France, l'intégration. La connaissance de la langue française. Il y a 2 autres critères qui me sont sortis de la tête. Une chose est certaine, c'est que...
Il n'y avait pas les résultats scolaires aussi là-dedans?
Non, il n'y avait pas les résultats scolaires, non. En revanche, on pourra en parler après.
Il y avait l'absence de délit commis, non, quelque chose comme ça. Puisque ça a été invoqué contre certaines personnes qui ont été expulsées, il me semble, à un moment.
C'était pas dans les critères, ça, non.
C'était
pas dans les critères.
Il y a eu un flou assez remarquable aussi entre est-ce que ces critères étaient cumulables ou est-ce qu'ils étaient exclusifs, etc.
Absolument.
Il y a eu des mouvements de la part de Sarkozy et de Klarsfeld, d'ailleurs, qui ont changé d'opinion plusieurs fois au cours de l'été sur cette question-là.
Oui, d'autant que en fait la circulaire était suffisamment vague pour que chaque préfecture l'interprète, hein, ce qui a donné lieu à des scènes absolument incroyables lorsque les familles sont allées déposer leur dossier.
Alors, pour compléter sur cette circulaire, elle est promulguée le 13 juin, oui. Et elle donne un délai aux familles pour déposer un dossier.
Oui, elle donne un délai jusqu'au 13 août aux familles pour déposer un dossier. Ce qui veut dire que ça suscitait un immense espoir chez les familles et il y a eu des dépôts. En fait, les nombres de familles qui jusqu'à présent ne s'étaient pas manifestées, et je pense que Clotilde pourra le dire mieux que moi, dont on n'imaginait pas qu'elles pouvaient être sans papier, se sont manifestées à ce moment-là. Pour certaines, elles avaient déjà déposé des demandes, que ce soit des demandes d'asile ou au titre de regroupement familial, qui avaient été refusées. Pour d'autres, c'était la première fois. Mais il y a eu, en fait, on a vu sortir du bois énormément de familles. Et c'est là que, en fait, RESF a décidé d'agir en se disant qu'il n'était pas question, de notre point de vue, de faire le tri entre les bons et les pas bons. Il y avait des familles qui rentraient dans les critères, d'autres qui ne rentraient pas dans les critères, mais à quel titre fallait-il faire ce tri? Et donc nous avons décidé, nous avons entrepris des actions de manière à ce que toutes les familles d'enfants scolarisés déposent des dossiers. Donc nous avons fait des dépôts de dossiers collectifs à 3 reprises entre juillet et août, où en fait le premier était extrêmement important parce que une délégation d'RESF a été reçue par des représentants de la préfecture qui nous ont donné des assurances. Notre interlocuteur qui était Yannick Blanc a été, à la suite d'une déclaration qu'il a faite en disant qu'il y aurait des milliers de régularisations, on s'est fait remonter les bretelles par son ministre de tutelle, par Nicolas Sarkozy, qui a dit « mais les gens qui parlent de chiffres ne savent pas de quoi ils parlent » et qui a à ce moment-là annoncé qu'il y aurait 20 000 dossiers déposés et 6 000 régularisations. Bon, les chiffres sont sortis de son chapeau parce que 20 000 dossiers, on a vu par la suite que c'était beaucoup plus. Et pourquoi 6 000 ?
Oui, c'est du cas par cas typique. On sait d'avance le chiffre final. Hein.
Alors, aujourd'hui, avec le recul et les refus qui tombent, je ne peux même pas dire qu'il s'agit de cas par cas. Parce que,
c'est ironique.
Oui, parce que les premiers dossiers qui ont été déposés au mois de juillet ont probablement été étudiés au cas par cas. Sauf que les premiers dossiers, ça a été 6 000 régularisations. Le quota sarkozyste est arrivé très rapidement. Et depuis, ce sont des refus. Et quand on examine le refus, on se rend compte que les dossiers n'ont pas été examinés.
Il était une fois, grande nouvelle dans les médias. Le ministre de l'Intérieur, les 7 décembre, KICIA. Mais venez d'oublier, ces ministres, la police. Qui bisouent un président, il méprisant et irraciste.
Thank you. rentrer son cabinet.
Emmenons-nous à Fort-de-France pendant que ça cognait pas. Si ça faut, était là, nous t'inquiète qu'à...
Il a fait de sa culotte.
Hey, gars,
voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et donc ce soir, on est avec Nathalie et Clotilde du réseau Éducation Sans Frontières qui loupe une des 32 réunions de RESF qui avaient lieu ce soir, puisque c'est le branle-bas de combat, les grosses mobilisations, puisque un tas de refus tombent suite à la circulaire Sarkozy. La circulaire Sarkozy du 13 juin dont on discutait. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé, c'est que Sarkozy fait une circulaire, c'est donc une circulaire d'application d'une loi, donc on est dans le cadre du droit, théoriquement, de l'application du droit, et il annonce dès le départ.
Une circulaire, c'est pas une loi, hein.
Oui, mais c'est la circulaire, juridiquement, c'est le cadre dans lequel la loi va être appliquée par les préfectures.
C'est une recommandation faite au préfet pour...
C'est une recommandation faite au préfet, absolument.
Et il affiche dès le départ le résultat, c'est-à-dire que sous couvert de droit, en fait, c'est plus du droit, c'est un quota. Et enfin, c'est excessivement violent comme truc de dire il y aura 20 000, il y a eu plus de 30 000 dossiers déposés, et on donne un chiffre, et au-delà de ce chiffre, il n'y a plus de droit qui vaille, puisque en fait, il fallait être dans les premiers. C'est un peu un des problèmes de c'était peut-être une réaction sur cette affaire de circulaire dont on a déjà parlé et de son application.
Très violent, c'est très violent et c'est effectivement une politique de quota qui ne veut pas dire son nom. Ligne de ce que déclare Nicolas Sarkozy depuis des années.
Cela dit, on n'a pas voulu co-gérer avec lui cette histoire d'application de circulaire parce qu'il y a eu des perches qui ont été tendues au réseau, évidemment.
Désignez-nous les bons.
Par exemple, par la préfecture de Paris. Bon, écoutez, on peut peut-être se voir autour d'une table hein, avec la FCPE, et puis alors on va essayer de voir comment on applique la circulaire. Hein. Bon, sauf que la FCPE, comme le réseau, on dit non merci. On n'est pas là pour s'amuser à éliminer, faire du tri entre les
sympathies. Et nous ne sommes pas des auxiliaires de la préfecture de police.
Alors, la difficulté, c'était que les gens, ils ont entendu ça à la radio, c'était très médiatisé. Bon. Ce qui fait qu'il y a des milliers de gens qui se sont précipités au centre d'accueil des étrangers pour déposer les dossiers. Des gens qui étaient dans la complète clandestinité. Et moi, je pense notamment, parce que je suis instite à Paris, à la population chinoise, bon, qui vivent entre eux, qui sont arrivés par des réseaux mafieux, qui travaillent entre eux, etc. Et c'est vrai, du coup, on les voit pas, on les remarque pas. Bon, sauf que quand ça fait 4-5 ans qu'ils sont là, on s'aperçoit qu'ils parlent pas français. Donc c'est pas un peu, j'ai envie de dire, le tam-tam façon de parler, qu'ils ont entendu parler de ça. Et on a vu des milliers de gens sortir de l'ombre, sortir du bois, pour aller déposer un dossier. Alors ça veut dire que ça les met en danger. Parce que bon, la préfecture ne les connaissait pas. Là, ils arrivent, nom, prénom, adresse. Bon. Donc on a préféré les accompagner. On va pas leur dire n'y allez pas, on va pas leur taper dessus. Non, on vous raconte du bobard. Donc dans ces cas-là, la seule façon de faire, c'est effectivement le dépôt collectif en disant bon, tout le monde peut déposer les dossiers, y compris les jeunes majeurs isolés, là, ceux qui sont les cas les plus criants. Enfin, on en avait déjà parlé, je crois, à une émission. Hein. Il y a des jeunes filles qui ont 19, 20 ans, qui sont là depuis 5, 6 ans, qui sont sans papier. Si on ne se bouge pas pour elles, dans un an, on les retrouve sur le trottoir. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Et alors, il y a celles-là qu'on a posé les dossiers, ceux et celles-là, les familles. Et l'idée, c'était qu'avec des dépôts collectifs, on espérait au moins que ceux-là, on les protégeait, parce que c'est une action collective. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie des 900 qu'on a déposés le 5 juillet, des 750 qu'on a déposés après, des 1000, etc. Bon. Et que du coup, il y a quelque part dans la tête de la préfecture le petit tampon RESF. Attention, ceux-là, c'est des emmerdeurs. Bon. On espérait les protéger comme ça, quoi. Bon, et on peut faire que ça, on peut pas les dissuader, quoi. Bon. En fait, c'était un piège aussi, hein, cette histoire.
Alors, pour vous faire plaisir, et parce qu'un certain nombre de cas étaient manifestement très, très complexes à gérer, Sarkozy a désigné un médiateur, l'avocat à roulette Arnaud Klarsfeld. On peut peut-être dire quand même deux mots sur cette nomination et l'intérêt, enfin ces déclarations, à quoi il sert ?
Alors, l'intérêt d'Arnaud Klarsfeld, ça c'est une vraie question qui n'est pas résolue. À quoi il sert ? Il était censé être médiateur dans les dossiers, dans le cadre des dossiers des familles qui rentraient dans la circulaire, hein, uniquement ça. Ceci étant, à ma connaissance, les cas qu'on lui a proposés, ça n'a pas donné grand-chose. Et par ailleurs, quand on s'est adressé à lui sur des cas très spécifiques qui ne rentraient pas obligatoirement dans la circulaire, il a fait des allées et venues. Je pense en particulier à la dernière expulsion qui est celle de Jeff, où en fait il avait déclaré, quand on avait attiré son attention, il avait déclaré que eh bien Jeff pouvait effectivement, il serait normal et humain que Jeff ait des papiers. À la suite d'une pseudo-enquête du Quai d'Orsay auprès du chef du village dont Jeff était issu au Nigeria, il s'est complètement rétracté. Donc ça montre bien que en fait Klarsfeld était plutôt au service du ministre de l'Intérieur plus qu'à celle des familles dont il était censé débrouiller les dossiers.
Oui, il a servi plutôt de paravent à Sarkozy. Moi, pour moi, il a un peu le même rôle qu'on l'a maintenant Doc Gynéco ou Johnny Hallyday, c'est-à-dire on prend un nom extrêmement, extrêmement connu, qui lui en plus était en dehors de tout soupçon, qui n'était pas attaquable en raison de ses origines, etc., du combat de ses parents, et donc voilà, quoi, qui a servi de manière assez objective à servir de tampon entre le réseau RESF et Nicolas Sarkozy.
Ah, c'est plus que ça, parce que je pense que Klarsfeld a une vraie responsabilité là aussi, à savoir qu'il savait ce qu'il faisait, et clairement, enfin. L'impression qu'il donne, c'est de courir après un portefeuille dans l'hypothèse où Sarkozy serait là. Mais je crois que c'est pas le sujet du débat. Hein.
Mais il avait un vrai poids, il pouvait faire.
Non, il n'avait aucun poids. En fait, il n'a aucune légitimité en dehors de sa nomination par Nicolas Sarkozy. Je veux dire, il n'a aucun pouvoir hiérarchique, il n'a aucun pouvoir de décision. Il est complètement, les lois de la République n'ont absolument pas prévu qu'un médiateur puisse avoir un poids quelconque.
Si vous nous réinvitez dans quelques temps, on se fera un plaisir de vous apporter le bêtisier d'Arnaud. Il y a une copine qui tient ça. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Que ce soit les interventions orales ou écrites, celles qu'on voit dans les journaux, c'est celles qu'on a pu constater quand il rencontre des familles. Franchement, il a raté plus d'une fois l'occasion de la fermer.
Alors cet été, juste avant l'été, moi j'étais venu assister à une réunion de RESF qui prévoyait un été très dur, très tendu, où il y avait beaucoup de risques. Il y avait un numéro d'urgence qui a été mis en place où on pouvait appeler dès qu'il y avait une situation, dès qu'on était en centre de rétention, des choses comme ça. D'ailleurs, je crois, Nathalie, que tu as le téléphone.
Oui, ma grande peur, c'est qu'il sonne parce qu'à chaque fois, c'est une situation catastrophique.
Alors, de ces inquiétudes et de toute cette mobilisation durant l'été, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a été un été aussi chaud que prévu ?
Alors, Monsieur Sarkozy, en fait, monsieur le ministre de la chasse à l'enfant, n'a pas complètement, loin de là, réussi son objectif. Il voulait expulser des familles, il voulait expulser des jeunes majeurs. Il y a eu, quoi, 2-3 familles expulsées et 4 jeunes majeurs. Son tableau de chasse n'est pas fameux. Ceci étant, c'est autant de souffrances et autant de gens qui ne seront pas là à l'école, qui n'ont pas fait la rentrée. Et ce sont des gens qui ont été renvoyés dans des conditions, dans des pays terribles. Il n'a pas gagné, mais c'est trop de toute façon. Je pense que la mobilisation de RESF pendant tout l'été, la mobilisation de d'autres réseaux et la prise de conscience d'un certain nombre de citoyens, de Français, a fait que l'été chaud a été moins chaud que prévu. En revanche, RESF avait mis non seulement un numéro de veille national, mais un numéro de veille, en tout cas à Paris, pour chaque arrondissement. Et je peux vous affirmer que ça a sonné tout l'été. Parce que même s'il n'a pas expulsé, il y a eu des rafles tout l'été, notamment à Belleville, à Château-Rouge, et que les centres de rétention sont pleins aujourd'hui. Nous avons eu des coups de téléphone continuels de gens qui nous disaient « mais mon père a été arrêté », notamment dans la communauté chinoise et africaine, mais notamment chinoise. « Mon père a été arrêté, ma mère a été arrêtée », ou « je connais une dame qui a été arrêtée aujourd'hui encore ». En ce moment encore, nous nous battons pour faire sortir une mère de famille d'un bébé de 2 ans qui est en centre de rétention depuis le 29 août. Ce matin, 2 autres personnes de la communauté chinoise ont été libérées, un père de famille et une mère de famille. Donc, ça n'a pas été ce n'est pas une très grande victoire pour Monsieur Sarkozy. Et il faut ajouter en plus que les élus et les politiques ont commencé à se mobiliser également. Et vous savez, quand on bombarde de fax la préfecture de police ou le ministère de l'Intérieur, quand des élus ou des politiques prennent leur téléphone et font des interventions, ça fonctionne. Quand nous, réseau, et certains de nos représentants sont sur le pont matin, midi et soir pour intervenir et avoir et être en ligne avec l'interlocuteur qu'on nous avait désigné à la préfecture, ça marche. En fait, c'est quatre plus trois, quoi. C'est quatre jeunes majeurs et 3 familles.
Et d'un autre côté, il y a une espèce de piège aussi, parce que ça demande une énergie absolument considérable, des mobilisations. Enfin, la moitié des militants de gauche de la place de Paris sont aujourd'hui mobilisés par ça. Enfin, je veux dire, ça, quelque part, ça anesthésie presque. C'est l'impression que j'ai, quoi. Je trouve que ça demande une telle énergie pour des cas souvent relativement injustes, même au regard de leurs propres lois, quoi.
Mais ça donne l'impression. Mais malheureusement, moi, je suis très surprise des gens qui s'investissent dans RSF. Sont surreprésentés les gens qui ne sont d'habitude pas des militants. Ils sont surreprésentés. Voilà. C'est-à-dire que les militants, on les trouve en train de faire le relais. Bon, le grand drame de RSF, ce qu'on dit depuis 2 ans, c'est qu'on trouve que les syndicats enseignants ne bougent pas assez. Bon, à part Sud et la CGT. Le gros syndicat enseignant majoritaire, la FSU, oui, il y a des copains qui soutiennent comme ça, mais on les voit pas là, on les voit presque pas. Il y a de temps en temps un copain, une copine qui se bouge, mais par rapport à ce qu'ils représentent, c'est-à-dire ils doivent faire la moitié des syndiqués de France et de Navarre, hein, quelque chose comme ça. Ils sont relativement absents. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Par contre, les parents d'élèves de la FCPE, qui ne sont pas des grands révolutionnaires, hein, traditionnellement, sont très, très présents. Et puis, plein de gens qui ne sont pas militants, qui ne l'étaient pas, et puis qui le disent en plus. Hein, au bout de on les rencontre comme ça, ils s'occupent d'un gamin, d'une gamine, parce que ça les a pris au cœur. Et puis ils viennent dire, mais moi, je ne sais pas faire. Bon, ben attends, je vais t'apprendre. Mais je n'ai jamais fait. Je ne sais pas rédiger un tract, je ne sais pas comment on fait pour aller soutirer une signature de soutien à un maire, à un député, j'ai jamais fait. Et c'est des gens qui apprennent en fait le militantisme et puis, alors il y en a qui vont dire Action citoyenne, moi je dirais bon, le fait de vivre quoi, de vivre en entier, et ils l'apprennent comme ça sous le tas. Et justement c'est très médiatisé et donc les militants politiques, syndicaux, associatifs, ils écrivent beaucoup, ils en parlent beaucoup, mais les gens qui sont sur le terrain là, les petites mains, qui font tout le travail ingrat, parce que bon, tout de même, il faut faire les dossiers des familles, aller les voir, les suivre, commencer à apprendre le droit. On ne fait pas une lettre de recours comme ça. Donc on appelle les copains de la CIMAD. La CIMAD, c'est les seuls qui peuvent intervenir dans les centres de rétention. On prend le chou aux copains du Justi, mais ils ne sont pas des milliards, hein, pour avoir leur lumière sur le plan juridique. Et puis après, on se débrouille comme ça. Et n'empêche que ce sont des gens comme vous, moi, ou n'importe qui remplit les salles d'audience quand il y a 400 personnes pour soutenir un gamin ou une famille. Et on s'aperçoit que sur les 400, bah, c'est les voisins de palier, le boucher, etc.
Alors, il y a eu ces résultats cet été, mais ce qui se passe, c'est que ça, tout ça, le réseau se réactive et qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de refus.
Les refus tombent aujourd'hui comme des mouches. C'est une horreur pour des raisons ou alors ce n'est pas toujours motivé, ou alors c'est ce que je disais tout à l'heure, pas de lien avec la France, mais en tout cas, de toute façon, les refus tombent. Et donc, j'imagine que la question à venir, c'était et quid ? Que va-t-il se passer maintenant ?
Oui, qu'est-ce qui se passe avec une situation comme ça ? Si on plus de 30 000 dossiers, d'après ce que j'ai compris, seulement 6 000 régularisations, qu'est-ce que ça fait ? Au moins 25 000 dossiers, refus, des gens qui reçoivent des refus. C'est une situation...
C'est une situation extrêmement difficile. Ce qu'on a fait pendant l'été, ce n'est pas ce que fait habituellement le réseau. Là, il y avait une situation d'urgence. Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est à nouveau à ce que ce soit les comités dans les établissements scolaires, parce que RESF, c'est ça, au départ. Ce sont des enseignants, des parents d'élèves qui, dans les établissements scolaires, soutiennent et suivent les familles et les enfants. On cherche à ranimer les comités de soutien. D'abord parce que, en fait, on peut pas faire autrement. C'est eux qui ont l'information, c'est eux qui connaissent les situations. Et puis, c'est eux qui sont le plus à même de bouger et de faire bouger autour d'eux et de mobiliser. Ceci étant, aujourd'hui, comme les situations sont difficiles, les situations sont vraiment très difficiles, avec les refus, on se pose la question des recours et du type de recours, en sachant bien qu'un recours gracieux, de toute façon, il faut le faire, parce que dans l'hypothèse où, en fait, il y aurait une suite au dossier d'une famille, si elle ne fait pas de recours gracieux, on lui reprochera de ne pas l'avoir fait, et donc de s'en moquer, en fait. Mais on sait que ça ne servira à rien.
Juridiquement, donc il y a un refus, qu'est-ce qui reste comme alternative ? C'est de faire un retour gracieux auprès de la préfecture.
Alors, il y a deux formes de recours. Il y a un recours gracieux, et puis il y a un recours gracieux auprès de la préfecture, et un recours hiérarchique auprès du ministère.
Et en troisième, recours auprès des tribunaux administratifs. Voilà. Sauf que là, les recours gracieux, c'est 4 mois. S'il n'y a pas de réponse en 4 mois, c'est plié. Le fait que l'administration ne répond pas, c'est qu'elle dit non. Et après, il y a les recours en tribunal administratif. Sauf qu'avant que ça soit jugé, ça prend deux ans, trois ans. Et qu'est-ce qu'ils font ?
Et ce n'est pas suspensif.
Territoire qui accompagne le
refus.
Alors,
il y a deux choses. Oui, il y a plusieurs choses. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les refus, on a toutes sortes de refus. Ce que nous avons appelé des refus simples, à savoir nous avons examiné votre situation et au regard d'eux, etc. Vous n'avez pas suffisamment de liens, donc nous ne pouvons donner suite à votre demande, point. On imagine qu'après, il y aura un refus plus circonstancié qui viendra. Et il y a des refus aussi avec invitation à quitter le territoire.
Donc, à quitter le territoire dans un délai de...
Un mois.
Un mois à compter de la date...
De notification.
Et l'étape après, c'est l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Ça veut dire que s'il y a un contrôle d'identité dans la rue, n'importe qui peut se retrouver illico presto en centre de rétention.
Alors, avant le centre de rétention, il y a une garde à vue de 48 heures. Donc, c'est tout notre... C'est pour l'instant une partie de notre combat, en plus du fait qu'il va falloir s'occuper, qu'il faut que nous nous occupions des familles qui ont reçu les refus. Mais aujourd'hui, quand on reçoit des appels téléphoniques en disant monsieur ou madame une telle a été arrêtée, il faut qu'on trouve où il est en garde à vue, dans quel commissariat, appeler le commissaire, mobiliser. Et puis parfois, c'est trop tard, ils sont en centre de rétention. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Mais ceci étant, là, il y a trois choses. C'est que immédiatement, il y a un recours devant le tribunal administratif. Ça se passe immédiatement après l'arrestation, dans les deux jours qui suivent l'arrestation. Généralement, de toute façon, ce recours ne sert à rien. La personne est déboutée. Il y a ensuite il passe ensuite à ce qu'on appelle le 35 bis, qui est le juge des libertés, qui maintient la rétention. Et les rétentions, c'est d'une durée d'un mois renouvelable. C'est ça, hein, Clotilde, d'une durée d'un mois de renouvelable. Et donc, après, il faut réussir, il faut tenter de les faire sortir de là.
1, 2, 3, 4. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un gros militaire, roi révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières, rendre l'autre, tous des frères, v'là le repère, Jacques Brelpont, Marley, Aznav, l'abbé Pierre, notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur, influence d'influence, de sonorités différentes, de Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche, du bon son pour tout le monde, du Joe dernier jusqu'au grand-père, v'là le bal populaire, vers son troisième millénaire, juste pour faire bouger les consciences, vasser les préjugés, rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller à l'heure. Repli communautaire à l'aube d'une troisième guerre. Aux ordres, on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
C'est Jazz, le maquisard, petit fils de Mujahid, le montagnard. Sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie. Hybride culturel entre Occident et l'Algérie. Contre la haine et l'injustice, j'ai pris les armes. Pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible. Dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste. Dans mon viseur, en guerre, contre bavure, police, raciste. En guerre, contre inégalité, pouvoir, fascisme. Mon hip-hop, j'écris comme on brandit un drapeau blanc. Soldat pour la paix, je rime pour les innocents. Contre les dictatures, les embargos, les colonies. Les bombardements, les invasions, les tyrannies. Je rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection.
Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Violon, accordéon, grosse caisse, chalet, caisse, clair, c'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, les têtes de Mouloud et de Robert. Tous des bounoules, des négros, des chintocs, des chabers. Une seule et même musique, un seul et même bon son, bon sang de bonsoir, ça faire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La chorie humaine divise quand notre musique rassemble. Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Un fennec, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons flingueurs du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chercheurs de rimes, remplis de balles en téflon. Je t'envoie à terre la kamikaze révolutionnaire. Une mine, une bombe, une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est ensemble encore pour un petit quart d'heure jusqu'à 20h30. Juliette, tu voulais poursuivre.
Voilà, Nathalie, tu nous parlais de justement le fait que les recours, après un refus de la part de la préfecture de régularisation, les recours vous laissaient assez peu d'espoir, ce qui inverse en fait une situation qui semblait exister de fait sur, en dehors de ce dispositif un peu particulier de cet été, où les recours étaient généralement assez payants. Dès qu'il y avait une mobilisation autour d'une personne qui montrait sa volonté de lutter, de ne pas accepter le refus de la préfecture, etc., généralement, on parvenait dans une majorité des cas, je crois, à inverser la situation. Là, il semble qu'autour de ce dispositif-là, il y a eu une série d'incohérences, de différences de traitement, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est que nous sommes très, très sceptiques quant à la portée des recours. Pour une excellente raison, c'est que Sarkozy a annoncé 6 000 régularisations. Il a son quota, son bon sens de quota. Il l'a. Il n'ira probablement pas plus loin, sauf s'il y a mobilisation. Et puis, alors, sur un autre, tout autre plan, qui est celui de l'inéquité de traitement des dossiers et de l'applicabilité, de l'application de la circulaire, c'est quelque chose dont il faudra que nous nous préoccupions, dont nous sommes en train de nous préoccuper, mais dont nos représentants élus devront se préoccuper un jour ou l'autre. Parce que quand on examine les refus à qualité, ne le prenez pas en mal, mais à qualité de dossier égal, l'un des dossiers est régularisé, le second ne l'est pas. Quand on est accompagné, lorsque nous accompagnons les familles à la préfecture, nous nous rendons compte que certains guichetiers demandent des papiers qui n'ont pas lieu, qui ne rentrent pas dans le cadre des dossiers.
Oui, non, et ça peut être des motifs de contestation de la procédure en cours.
Ah oui, tout à fait. Non seulement, oui, ce sont des motifs de contestation de la procédure. Et puis, ça pose aussi l'interrogation de l'application de cette procédure et du traitement. Des dossiers.
Vous nous parliez des hors antenne, vous nous parliez des cahiers scolaires des gamins qui demandés.
Mais oui, enfin entre les cahiers scolaires des gamins qui étaient demandés, on a rétorqué aux familles que les certificats de scolarité étaient des faux. Donc on nous a demandé les fiches de cantine, les factures de cantine, les dessins que même avaient pu faire certains enfants dans les classes. On a vu des guichetiers feuilleter les cahiers des enfants. On est dans l'hypocrisie et le bleu le plus complet. Les familles, pour montrer la preuve de leur intégration et de leur volonté d'être français et d'être en France, y compris lorsqu'elles travaillent au noir, et bien évidemment qu'elles travaillent au noir, les parents n'ont pas de papier, n'ont pas le choix, déclarent volontairement leurs impôts. Donc ont des déclaration de revenus et ont des avis d'imposition, souvent à zéro, parce que vous imaginez bien qu'ils ne gagnent pas des mille et des cent. Quand ils sont imposables, ils paient leurs impôts. Mais ils ont tous des fiches d'imposition, documents qu'ils ne devaient pas montrer dans le cadre de la circulaire, mais qu'ils ont apporté pour montrer la preuve de leur intégration. Et moi, j'ai vu sur la chemise dans laquelle le guichetier insère les dossiers des familles, j'ai vu « ne présente pas d'avis d'imposition ».
C'est-à-dire qu'on laisse régner, en fait, dans les préfectures, une sorte d'arbitraire assez flou qui permet d'évacuer des dossiers sans plus de justification, de varier avec les critères d'application de cette circulaire, etc.
C'est complètement aléatoire. On a demandé aussi des fiches de paye à des gens sans papier. Le pompon, c'est qu'il y en a qu'on avait des fiches de paye. Donc alors là, il y a le problème sur « bon, mais tu vas faire plonger ton employeur, là, c'est direct ». Bon, et ça pose plein de problèmes. Évidemment, quand j'ai vu « fiches de paye demandées », ah, j'ai vu ça une fois. J'ai dit, mais c'est pas possible, il est sans papier. Ou alors vous faites. Alors, dans ces cas-là, on fait la chasse effectivement aux employeurs qui emploient des sans-papiers, etc. Bon, mais ça, c'est un autre boulot. Mais dans ces cas-là, qui nomme assez d'inspecteurs du travail pour faire genre le taf, quoi. Mais là, on peut pas faire l'un et son contraire, quoi. Enfin, donc, c'est complètement aléatoire. Des fois, on va accompagner les familles, on les accompagne pour éviter qu'il y ait des embrouilles. Il y a des accompagnateurs de RSF à qui on demande les papiers. Voilà. Et puis d'autres pas.
Bon, mais c'est plus que ça même. Dont on demande les papiers, dont on demande qu'ils doivent remplir une fiche. Et on ne sait pas d'ailleurs ce que devient cette fiche, mais clairement, on peut imaginer la constitution d'un nouveau fichier.
Ça a été annoncé assez officiellement, le fait
pour
de
les
ficher les personnes qui aidaient les sans-papiers.
Dans les centres de rétention, on remplit un document quand on va visiter un retenu.
Mmh. Oui, mais là, tu peux accompagner ton voisin. Bon, moi, je ne sais pas, j'y suis déjà allée à la préfecture, on ne m'a jamais demandé ni mes papiers, on m'a toujours laissé accompagner des familles jusqu'au guichet. Et il y a des copains à qui on a demandé des papiers ou l'autre à qui on a dit non, vous restez dehors. Et tout ça, dans la même préfecture, celle de Paris. Et on ne sait pas, moi j'ai pas réussi à trouver quel était le fil conducteur, quoi, la nationalité ou ma tronche ou celle du voisin.
On a interrogé notre interlocuteur qui remplaçait Yannick Blanc, qui a été mis sur la touche par Nicolas Sarkozy et envoyé en vacances. On a interrogé M. Gaume, qui était notre interlocuteur, qui disait mais non. Mais quand on se référait à M. Gaume devant les guichetés, on nous répondait « Gaume ne connaît pas, s'en fout ».
Alors, peut-être, parce que les missions avancent, de donner un petit peu, on va en profiter pour donner un petit peu les prochaines échéances, les contacts de RESF, et puis... pas du tout à la radio.
Non, c'est pas un blanc, parce que c'est une réponse à plusieurs... plusieurs paliers, à savoir, il y a déjà une première mobilisation, une première mobilisation, parce qu'on veut voir, nous et surtout les enseignants et les élèves du lycée d'Orient, voir revenir Jeff. Donc demain, déjà, au lycée d'Orient, dans le 11e, il y a une mobilisation. Il y a eu déjà aujourd'hui quelque chose, il y aura quelque chose demain. Par ailleurs, il y a effectivement samedi à République avec les 1000 de Cachan. Nous serons là, nous serons présents parce que la scolarisation des enfants sans papier, c'est une évidence pour nous. Le fait qu'ils restent là, c'est évident pour nous. Ensuite, on continuera à se mobiliser. Ah, chose importante aussi. Une sénatrice communiste a déposé une demande de commission parlementaire. La session parlementaire ouvre le 7 septembre, a déposé une demande de commission parlementaire sur le traitement de la circulaire et des dossiers. Donc ça peut être extrêmement intéressant et ce sera effectivement, on attend ça avec impatience, si tant est que cette commission voit le jour.
Il ne faut pas oublier qu'on est en campagne préélectorale ou en pré-campagne électorale, comme on veut. Et ça peut être très bien, mais on va voir aussi qui va jouer quelle partition, hein, dans toute cette petite histoire. Parce que pour l'instant, il y a une grande unanimité d'un certain côté, à gauche, pour nous soutenir.
Avec des bémols, déjà,
mais plus on va s'approcher de l'échéance électorale, plus je pense qu'on risque d'avoir les surprises. C'est peut-être là qu'on va retrouver nos vrais amis, nos vrais alliés. Et pour ce qui est de contacter Éducation sans frontières...
Juste les bémols, parce que...
les bémols,
de
c'est
qui
que...
tu parles.
Oui, parce que... Enfin, oui. Pour compléter, peut-être parce qu'on se souvient qu'en 1995, il y avait eu un certain nombre de promesses faites par le Parti socialiste à l'encontre des sans-papiers. Ça ne s'est pas réalisé du tout, même...
Il y a eu la loi Chevènement, mais il y a aussi des régularisations. Chevènement a régularisé, ne l'oublions pas. Bon, je ne pense pas qu'on soit là pour faire le procès du Parti Socialiste. Moi, j'attendrai du PS qu'il aille au-delà de sa demande d'un moratoire, parce que ça ne règle pas la question actuellement, loin de là. Maintenant, il y a une déclaration du Bureau national disant qu'il serait là derrière chaque cas, mais clairement, aujourd'hui, a priori, aucun des candidats à l'investiture ne tient le même langage.
Bon, on ne lit pas dans le marc de café, hein. On ne va pas commencer à vous... Bon, on verra bien. De toute façon, on verra tous, là, dans les 9 mois qui viennent. On va voir, ça va se décanter, si je puis dire.
Alors, donne-nous les contacts du réseau Éducation
Alors,
sans frontières.
L'adresse, si vous voulez écrire à Éducation sans frontières, vous écrivez à éduc sans frontières, tout attaché, @free.fr. Autrement, on a un site où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, et notamment On peut télécharger gratuitement un petit bouquin qui a été fait par la CIMAD, le GISTI, la LDH, le MRAP, qui est un truc juridique, avec la base de comment monter une mobilisation, comment se défendre, et des références juridiques claires.
Béton.
Béton, ça a été rédigé ça, en décembre 2005. Donc le petit bouquin s'appelle « Jeunes scolarisés sans papier, régularisation, mode d'emploi ». Et puis vous aurez aussi plein d'autres informations, les circulaires en vigueur et tout, à l'adresse www.education-sans-frontières-education-sans-frontières.org. Voilà.
Par ailleurs, il existe un numéro national d'urgence quand même.
Oui, oui, qui a été mis en place pour cet été, qui est maintenu du coup.
Alors, le numéro national, oui. Alors, il y a des numéros de veille dans tous les arrondissements. Je n'ai pas sûr que tous fonctionnent parce que c'était un numéro d'urgence pour l'été.
Alors, le numéro national, peut-être, tant que voilà. Vous cherchez, je vais signaler juste que nous, on avait reçu un bouquin qui était fait par le réseau Éducation sans frontières avec Anne Ginsburger, qui s'appelle Écolier vos papiers. Ça a été publié en avril 2004 et qui revenait à la fois sur un petit peu de contexte juridique, mais aussi sur l'histoire des mobilisations de RESF et tout ça. Donc, qui faisait un petit peu le point et qui peut être sur ce qui se passe autour du réseau Éducation sans frontières. Voilà, c'est publié, ça s'appelle Écolier vos papiers, c'est publié chez Flammarion et ça coûte 18 euros.
Alors, le numéro d'urgence nationale de RESF, c'est le 08 20 20 70 70. 08 20 20 70 70. Et il y a une adresse aussi, c'est réseaudeveille@nolog.org. Vous pouvez consulter, ça c'est le truc de veille, c'est les trucs d'urgence qui ont été mis en place pour cet été.
Voilà, bah écoutez, merci Nathalie et Clotilde, merci beaucoup d'être venues.
Ajouter
un mot.
Allez-y. Oui, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il est important de rester très à l'écoute de ce qui se passe dans les établissements scolaires, parce qu'il y a des enfants en danger, il y a des jeunes en danger, et que sans la mobilisation effectivement du réseau des enseignants, des parents d'élèves, mais sans la mobilisation des citoyens, on n'y arrivera pas.